Avant de commencer proprement dit l'émission, chose inhabituelle, je me sens obligé de pousser un coup de gueule. Monsieur le Président de la République française, dernièrement, vous avez tenu des propos inadmissibles dans un état de droit. Car si vous souhaitez emmerder nos compatriotes non vaccinés, vous avez réussi à m'insupporter. En effet, lors de vos vœux à la nation du 31 décembre, vous avez expliqué au peuple français que les devoirs valent avant les droits. Ceci est totalement aberrant juridiquement. Un homme aussi brillant sait bien que nous sommes des sujets de droit, pas de devoir. Deuxièmement, vous avez signifié que les personnes non vaccinées, même si comme vous, elles me tapent sur le système et que je les considère avec dédain, leur irresponsabilité ne fait pas d'eux des personnes déchues de leur citoyenneté. Oseriez-vous comparer ces personnes à des terroristes dont vous souhaitiez, lors de votre présence dans le gouvernement Hollande, les déchoir de leur citoyenneté s'ils possédaient la nationalité française ? On peut se poser la question. Par vos propos, vous contribuez à fracturer un pays qui n'a jamais été aussi divisé alors que vous êtes garant de l'unité de la nation. J'ose espérer que votre campagne ne sera pas à l'image de vos propos. Inutile. Veuillez agréer, monsieur le président de la République française, l'assurance de mes salutations distinguées. Retour à notre émission. Ce soir, nous débattrons du sujet suivant, les services publics, quel bilan pour le quinquennat Macron ? Sujet au cœur de l'actualité du fait de la crise sanitaire actuelle. En conséquence, nous tenterons de répondre à notre problématique du soir en compagnie de nos invités, que je remercie par avance de leur présence. Julien Cristofoli, enseignant et co-secrétaire du syndicat SNUIP FSU en Sarthe, militant pédagogique et militant. Bonsoir, monsieur Cristofoli.
Bonsoir.
Monsieur Lionel Bormans, ancien conseiller municipal de la ville du Mans, représentant du mouvement Territoire de Progrès en Sarthe, soutien de la majorité gouvernementale. Bonsoir, monsieur Bormans. Vincent Gruau, maire de Juppy, conseiller communautaire de la communauté de communes de Loire-Lucé-Bercé, membre du Parti Les Républicains. Bonsoir, monsieur Gruau.
Bonsoir, Nicolas.
Donc, le sujet ce soir, les services publics. On le savait, depuis que la crise sanitaire avait rabattu les cartes de la réforme de l'État, la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique sur la période du mandat n'aura pas lieu. La crise sanitaire est celle préalable des Gilets jaunes ayant amené l'exécutif à y renoncer. L'objectif du quinquennat Macron était la suppression de 10 000 postes par an dans la fonction publique d'État et de 14 000 dans les collectivités, soit 50 000 postes supprimés dans la FPE et 70 000 dans la FPT sur 5 ans. Qu'en est-il à 3 mois des présidentielles ? Parmi les autres points, on pourra aussi évoquer la suppression de l'ENA, la facilitation de la mobilité des fonctionnaires vers le secteur privé, le développement du recours au contractuel, la dématérialisation des démarches administratives, le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires ou encore la généralisation du télétravail dans la fonction publique. Ces constats et ces réformes, qu'en penseront nos invités ? C'est ce que nous verrons ce soir. Premier sujet, l'éducation nationale, dépôt de bilan sous Monsieur Blanquer, point d'interrogation. Monsieur Cristofoli ?
Dépôt de bilan ?
Ouais, ou pas ?
Pour le ministre, j'espère. Surtout là, avec les jours que nous venons de passer, on est à J+3 de la rentrée des classes, avec un ministre qui... Je vois des gens qui réagissent, mais un ministre qui informe par voie de presse et par article payant 900 000 fonctionnaires quelques heures avant la rentrée. Ce que nous, on appelle le démerdentiel, enfin, clairement. Je conseille à chacun et chacune de demander aux enseignants, aux directeurs, directrices d'école, comment ça se passe dans leurs écoles actuellement, là, aujourd'hui. Moi, j'ai passé, 8 heures au téléphone avec des collègues, là. C'est l'horreur. Je le dis bien, c'est l'horreur. On est face à un ministre qui nie la réalité, qui, à coup de communication, à coup de mots, essaie de faire croire que la confiance et la bienveillance prévaudraient. C'est faux. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de faire fonctionner les écoles, d'accueillir les enfants correctement. Et surtout, tout ça a été prévu. Je rappelle que le 22 décembre dernier, l'OMS a prévenu que la vague Omicron était extrêmement compliquée à gérer et qu'il fallait anticiper. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le ministre n'a absolument rien anticipé.
Monsieur Bormans, tu as une réponse ?
C'est toujours c'est de la communication contre de la communication. Là. Je suis sur le terrain aussi. J'ai aussi des enfants placés chez nous qui vont à l'école. On a été touchés fin décembre par des cas Omicron. Donc c'est simple pour personne. Après, l'administration de l'éducation nationale, c'est plus d'un million d'agents. Donc c'est pas aussi simple qu'une petite structure, la communication est très générale du coup, et c'est vrai que tout est compliqué, voilà. Je veux dire, personne. Moi, j'ai des contacts ailleurs, à l'étranger, en Belgique. Aucun pays ne s'en sort à la perfection comme vous le souhaiteriez. Voilà, c'est compliqué partout. C'est compliqué partout. Et voilà. Donc, et moi, je suis en contact avec les écoles où sont scolarisés les enfants qui sont chez nous. Ça se passe correctement. Après, c'est pas parfait, mais vous, c'est vrai que vous attendez la perfection. Et la perfection n'existe pas. Donc, voilà. Et les enfants retournent à l'école, ça se passe relativement bien, voilà, donc voilà, faut arrêter de tout être dans l'excès.
Merci Monsieur Bormans. Monsieur Greuvou, en tant que maire d'une ville, d'une petite ville, comment vous vous adaptez pour la gestion justement de la politique sanitaire dans les écoles primaires?
Mais je vois que
un avis sur éventuellement les échanges de nos invités.
Le débat est tout de suite cristallisé par le Covid et ses impacts, c'est une réalité. Mais j'espère qu'on va prendre un petit peu de recul aussi, parce que bon, le Covid c'est depuis 2020, donc il faut aussi regarder ce qui s'est passé depuis 2017 au niveau de l'éducation nationale, il y a beaucoup à dire. Mais pour répondre à votre question et corroborer ce que disait M. Christofoli, c'est vrai qu'on a des circulaires, on a des protocoles, des documents de 50-60 pages qui arrivent trois jours avant la rentrée, c'est un enfer pour le personnel encadrant de notre CIVOS, puisque nous on a un petit village dans lequel on a la chance d'avoir une école. Donc le personnel dépend de nos mairies, le personnel enseignant de l'éducation nationale. L'applicabilité de ces protocoles qui viennent du ministère sans trop réfléchir aux problématiques territoriales qui sont différentes entre un collège, un lycée, milieu rural, milieu métropolitain, etc. C'est ni fait ni à faire. On les applique comme on peut. Parce que la solution face à la crise Covid, c'est le pragmatisme. Donc il faut aussi informer les parents d'élèves. C'est quelque chose qui n'est pas toujours pris en compte à sa juste mesure. Et nous, en tant que maire, c'est évidemment notre rôle.
Merci, M. Greuvou. M. Bormans, une réponse.
Je voulais rebondir sur la lourdeur administrative. Elle n'est pas propre à l'éducation nationale. Elle est très générale en France. Le président en a parlé dans son interview cette semaine. Moi, je le vis pour travailler dans la formation auprès des fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires d'État. C'est un problème. Déjà, le précédent mandat avait essayé de s'attaquer à ces lourdeurs administratives. Je vous rappelle qu'il y avait un secrétariat d'État à la simplification. Donc, il y a eu des avancées mais c'est un vrai problème. Qui est général de lourdeur administrative dans ce pays. Voilà, donc on peut
Monsieur
pas
Christophe, l'occulter.
Je pourrais partager, mais moi je vais revenir quand même un petit peu sur le Covid, juste pour un exemple tout simple.
Oui, mais
nous avons eu une nouvelle foire aux questions ce soir. Enfin, je veux dire, c'est un sketch. Enfin,
alors, je vais expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce qu'est la foire aux questions.
La foire aux questions, c'est comment organise-t-on l'école sous Covid. C'est-à-dire, on se pose des questions, elles sont listées. Et donc, ça permet, que ce soit aux parents d'élèves, aux enseignants, au personnel en général, hein, de savoir quoi faire.
C'est un moyen d'interaction entre l'administration centrale et les parties prenantes de l'éducation.
On apprend maintenant que les élèves de soignants peuvent être accueillis et eux, on peut les brasser. Que les élèves, et nous on s'en félicite puisqu'on a contré ça, que les élèves d'ULIS, c'est-à-dire les élèves en situation de handicap, peuvent être à nouveau inclus dans les classes puisque depuis lundi, il n'y avait plus le droit. Enfin, et j'ai toute une série, une litanie de choses qui ont changé en trois jours. Enfin, moi, je ne sais pas où travaille ce ministre et avec qui il travaille, mais personne ne travaille comme ça dans une entreprise ou dans un autre service public. C'est ingérable, je le dis clairement, c'est ingérable, c'est beaucoup trop léger, et moi je pense que ce monsieur devrait rentrer et revoir ses études. Il n'est pas à la hauteur du sujet, là. Enfin, on ne peut pas changer les protocoles et les organisations, je peux demander à un maire, mais c'est ingérable, je le dis. Et je ne vise pas la perfection. J'aimerais qu'on en soit dans une forme de pragmatisme, mais dans l'intérêt des élèves. Les élèves, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'être rassurés. Et là, moi, je ne vois pas comment on peut le faire dans de pareilles conditions, puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il faut qu'on fasse du jour pour le lendemain. Enfin, je rappelle que quand même, on est jeudi soir et que la circulaire, enfin, la foire aux questions s'applique demain matin. Enfin, je veux dire, les gens, là, il faut qu'ils passent leur soirée à étudier plusieurs dizaines de pages de nouvelles foires aux questions. Enfin, c'est ça la réalité de ce à quoi on fait face. Moi, je vous assure que je trouve que sans viser la perfection, on pourra avoir quelqu'un qui se renseigne un petit peu sur la réalité du terrain avant de pondre ces circulaires.
Merci pour cet état de situation actuel sur la gestion de la crise du Covid, M. Christofoli. Mais plus largement sur l'éducation, politique de programme, fonctionnaire ou contractuel. Enfin, sur tous ces sujets-là, monsieur, quel constat Monsieur Gruot, peut-être vous, de votre point de vue au niveau des
Je pense que Monsieur Blanquer cristallisait beaucoup d'espoir au début en tant que personne compétente dans son domaine, en tout cas sur le papier. un peu à l'image de son patron, hein, d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, il y a énormément de déceptions. Il y a presque plus de déceptions que d'espoir au départ. Beaucoup de bruit pour rien, en fait. Il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup d'ambition. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, la sanction, c'est aussi le classement PISA de notre école en France. Donc, on n'a pas fait d'économie, on n'a pas amplifié le personnel enseignant, on n'a pas fait confiance au territoire et décentralisé. Et aujourd'hui, on a une école qui n'a fait que se dégrader depuis 5 ans.
Merci M. Gros pour ce constat. M. Borman, c'est une réaction peut-être ?
C'est un constat qui n'est pas vraiment basé sur une réalité. Je veux dire, c'est pas parfait. Il y a plein de problématiques qui datent avant 2017. Hein. Le classement PISA, il n'a pas subitement chuté à partir de 2017. Donc la problématique, moi j'ai toujours entendu les ministres de l'éducation se casser les dents sur les réformes. Enfin voilà, ça fait des années que ça dure. Et puis sous le mandat de Nicolas Sarkozy, on a taillé dans les effectifs et ça a eu des dégâts. On ne peut pas le nier. Derrière, le précédent mandat a rehaussé le nombre d'enseignants. Après, se pose aussi le problème des vocations, les difficultés à recruter des enseignants.
Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ?
Il y a eu une revalorisation qui n'est jamais suffisante. Je vais entendre M. Cristofoli dire que ce n'est pas suffisante, mais il y a une revalorisation. Mais je pense qu'au-delà de la revalorisation, c'est un problème peut-être de gestion des ressources humaines. Il y a eu des annonces qui ont été faites.
Il n'y a pas de ressources humaines officiellement à l'éducation nationale. Ça pose une question.
Je pose vraiment la question. Parce que ma fille est en train de passer le concours et je peux vous dire que dans certaines académies, ils rament pour trouver des futurs candidats. Voilà. Donc le problème, il va au-delà de simplement le gouvernement actuel. Il est plus profond. Et donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Mais dans cette mandature, il y a eu quand même des vraies avancées. Moi, je le vis au quotidien avec des enfants placés dans les quartiers sensibles et à l'école Gounod. Et je peux vous dire que depuis 13 ans qu'on a accueilli des enfants, ceux qui ont bénéficié du dédoublement, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus pour les enfants. Et ça compte, des choses comme ça. Donc, la réforme du bac, on peut la critiquer, mais il y a aussi des avancées. Je le vis avec des enfants que je côtoie. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, mais c'est vrai que réformer une administration de plus d'un million d'agents, ça se fait pas en claquant du doigt.
On en parlera peut-être tout à l'heure. Il aurait peut-être fallu dégraisser le mammouth pour certains. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Non, je me permets cette expression. Voilà. Julien Cristofoli, une réaction sur éventuellement les réformes ?
Évidemment.
Ce qui vous a paru bien et pas bien ?
Alors, il y aurait tellement à dire, mais pour simplifier et faire des choses qui parlent. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on a un ministre qui est persuadé d'avoir la vérité contre les personnels. Enfin, moi, je rappelle que ce ministre a beaucoup de mépris pour les personnels et leurs représentants. Il refuse d'entendre l'analyse du terrain et des chercheurs. Hein. Je rappelle aussi que ce ministre est quand même peu porté sur autre chose que les sciences dures, les sciences de l'éducation, il ne veut pas en entendre parler. Et donc vous dites que, par exemple, les CP dédoublés, hein, qui sont en fait limités à 15 maintenant, et je rappelle que le dédoublement, c'est quand on a 24 élèves, ça devrait être 12. Donc il y a des problèmes de moyens derrière ça. Mais si c'était si efficace que ça, eh bien, on n'aurait pas tout un tas de problèmes avec des élèves qui n'entrent toujours pas dans les apprentissages, eu égard au fait que quand on change les dispositifs, et je vais terminer, il faudrait accompagner ça de formation. Moi, je suis assez tranquille, j'ai eu des CP à 12, hein, donc je sais de quoi je parle, moi j'en ai eu. Et donc pour les élèves qui sont éloignés des attendus de l'école, ça ne résout rien. Parce qu'à côté de ça, par exemple, tout ce qui est des personnels de RAZ, c'est-à-dire les enseignants qui aident les élèves en grande difficulté, eh bien eux n'ont pas eu de moyens supplémentaires, pire, on leur a coupé les moyens. Donc si vous voulez, moi je veux bien entendre plein de choses, mais effectivement, la politique libérale qui s'applique à l'école, elle n'a pas 5 ans, elle a 15 ans, 20 ans, même plus que ça. Par contre, très clairement, pendant 5 ans là, on a eu une attaque en règle de ce qu'est l'éducation nationale, de ses fondements démocratiques, avec par exemple la loi Rilhac, qui fait qu'il n'y a plus de conseil des maîtres et des maîtresses, mais un petit chef dans les écoles. Ça ne résout rien, preuve en est, depuis 3 jours, la loi Rilhac s'applique depuis janvier, eh bien, les écoles ne fonctionnent pas mieux, pourtant il y a un petit chef. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi des réformes qui sont rejetées par les personnels seraient à même d'améliorer les résultats de l'école. C'est faux. Mais ce dont on a besoin, c'est de moyens pour l'ensemble du système éducatif, de la maternelle à l'université. Je rappelle que l'université du Mans craque sous le nombre d'élèves. Donc moi, je veux bien qu'on nous dise que tout est difficile parce que ceux d'avant n'avaient pas bien fait, mais tout le monde dit ça.
Non, non.
Ah mais si, mais si.
Attendez, monsieur,
et donc, on a besoin d'investir. Je finis là-dessus.
Allez-y, monsieur.
On a besoin d'investir dans l'éducation au sens large. Je rappelle que la part de PIB qui est investie en France pour l'éducation baisse continuellement. Donc moi, je veux bien qu'on investisse, mais il faut le faire avec autre chose que des paroles. Il faut mettre de l'argent.
Donc pour vous, dans l'éducation, le bilan quinquennal de M. Macron, c'est qu'il n'y a pas encore eu assez de moyens mis pour du 7.
Il n'y a pas encore eu, il y en a de moins en moins.
Oui, il y en a peut-être même de moins en moins.
J'ai des chiffres, il y a pas de moins en moins.
M. Bormans, une réaction très courte, et M. Gruau derrière, mais très courte sur l'éducation, parce qu'on a aussi l'hôpital.
Le fameux discours, il faut toujours plus d'enseignants, on peut en mettre 1,2 million, 1,3 million, je pense qu'il y a plus de... Il y a d'autres questions à se poser que uniquement des questions de moyens, des questions sur la pédagogie aussi, qu'il faudrait se poser, des questions peut-être sur décentraliser le modèle. Voilà, et se contenter de dire il faut plus de moyens et clac, ça va fonctionner, c'est pas vrai. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Et je peux vous dire, sur la précédente mandature, il y a eu 25 000 enseignants de plus. On peut pas dire que les résultats ont été spectaculaires.
Il y en a eu 60 000 de supprimés avant.
Voilà, donc... Oui, mais on remonte de 25 000. Donc le problème est plus large et à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Quand vous avez des élèves en première qui ont des problèmes de la lecture, c'est pas uniquement la responsabilité du ministre, c'est la responsabilité collective.
Un collectif, oui.
Voilà.
De la collectivité.
Donc, monsieur Christophe Ollier, on a compris, il n'y a pas assez de moyens. Monsieur Bormans, vous dites, on a bien fait, mais on pourrait s'améliorer sur l'organisation. Et monsieur Gruau, le constat final, vous ?
Mais il y avait des bonnes idées, mais elles ont toutes fait pchit. Le dédoublement, 10 800 dédoublements, c'était une bonne idée. Ça coûte 164 millions par an.
C'est pas prouvé que ça fonctionne.
Mais ça fonctionne pas. L'objectif, c'était 100% de réussite. On note une petite amélioration de l'ordre de 20%. C'est déjà ça. Mais il y a un manque de moyens. Et je rejoins ce que disait M. Christophe Ollier. Parcoursup, c'était un principe qui pouvait avoir du sens. Mais la mise en application est catastrophique. Enfin, il y a des cas qui sont dramatiques pour un certain nombre de jeunes. Et on n'a pas parlé de la violence aussi. Il y a eu le mouvement des stylos rouges. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'école par rapport à ces problématiques de violence, de respect, etc. Bref, la situation s'est dégradée.
Merci pour cet avis, M. Gruau. On va passer au deuxième sujet des constats. L'hôpital est-il au bord de la réanimation ? Monsieur Bormans, sur l'hôpital, le bilan finalement, vous êtes plutôt satisfait de tout ce qui a été fait en tant que membre de Territoires de Progrès ?
Il y a eu des choses qui ont été faites, le Ségur de la Santé, il vient après aussi des décennies de rémunérations qui ont été bloquées, mais encore une fois, le problème n'est pas uniquement la rémunération. Alors, il y a les oppositions qui sont très focalisées sur les fermetures de lits, mais on assiste dans tous les pays à ce changement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'ambulatoires, et il y a une augmentation des lits en ambulatoire. Donc à un moment donné, si on veut tout regarder, il faut aussi être objectif, faut arrêter de focaliser sur un chiffre. La revalorisation du Ségur de la Santé, elle n'est pas insuffisante par rapport à 10 ans de blocage, mais encore une fois, il y a des problèmes plus profonds. La pénurie de médecins, c'est le numerus clausus qui a été bloqué, et les médecins d'aujourd'hui n'ont pas la même mode de fonctionnement qu'il y a 20 ou 30 ans. Ils sont pas prêts à faire des heures sans limite. Donc à un moment donné aussi, il y a eu le problème de la mandature Chirac-Sarkozy qui a aussi fait des dégâts derrière, qu'on a payé sur le long terme. Donc il y a plusieurs problèmes. L'aménagement du territoire, je pense que aussi se pose aussi. Donc il y a beaucoup de chantiers à venir. Il y a eu des choses qui ont été faites, indéniablement.
Financement, je crois, plusieurs milliards aussi.
Ouais, il y a du financement qui a été mis sur la table. Il y a eu vraiment des avancées, mais l'hôpital était dans un tel état que c'est difficile de rétablir d'un seul coup d'une baguette magique.
Mais voilà. Un peu comme dans l'éducation nationale, s'il n'y a pas une crise de la vocation dans les professions médicales, on voit qu'il y a plein de gens qui préfèrent partir dans le libéral.
Des médecins qui obtiennent leur diplôme de médecin et qui n'exercent pas. Donc c'est un vrai problème, ça doit poser des questions.
Monsieur Christophe Ollier, une réponse.
Comme l'éducation nationale, non, il n'y a pas besoin de moyens, évidemment.
C'est pas ce que j'ai dit.
Tout va bien, les urgences en Sarthe, je rappelle, sont régulièrement fermées. On a une loi qui vient d'être passée insupportable et scandaleuse, qui va faire payer les urgences aux personnes qui ne seraient pas hospitalisées. Enfin, je rappelle quand même qu'on a une pénurie de médecins dramatique dans notre département. Enfin,
oui, mais là, pour...
Non,
non, mais attendez, le numerus clausus, ça prend plusieurs années pour prendre un médecin. Bah, bon, là, pour le coup, ils l'ont réouvert.
On a des démographes en France. On sait très bien que la pénurie de médecins, elle est annoncée depuis 20 ans. Il n'y a pas de surprise. Non, non. Moi, ce que je trouve intéressant, que ce soit pour l'hôpital, dont on voit l'importance sur la question de la santé publique, c'est-à-dire d'un commun à partager, à quel point, en fait, les années d'hôpital-entreprise ont cassé l'hôpital public, notamment la T2A, qui a été un modèle catastrophique qui fait que tout est devenu un enjeu financier, alors que la santé doit être sortie de la financiarisation. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est, moi je reviens entre guillemets à un parallèle avec l'éducation, c'est que là on vit la même chose dans les hôpitaux et à l'éducation nationale. On est, la crise sanitaire et sociale que nous vivons, en fait, est un révélateur des dysfonctionnements organisationnels, et je le redis, du manque de moyens organisés par les gouvernements successifs. Enfin, je veux dire, si on pense que la santé ça coûte trop cher, eh bien on n'a qu'à voir ce que ça donne en ce moment. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont exclus des parcours de santé et que le président de la République dit vouloir emmerder. Mais enfin, c'est une folie. C'est une folie. Ah bah, c'est pas moi qui parle comme ça, c'est le président de la République. Hein. Enfin, je veux dire, je ne fais que le citer. Hein.
Monsieur Gruau. Et non, pour rebondir sur les propos ou votre avis sur un sujet.
Comme dans l'éducation nationale, la fonction hospitalière, c'est 1,2 million de personnes. Ces effectifs ont augmenté 290 000 depuis 1997, mais seulement 8 000 depuis 2017.
Et la démographie française augmente.
Aussi, la démographie, tout à fait. Il y a eu une augmentation des salariés de 2003-2017 et jusqu'à 2010, c'était plus 12%. Donc il y a eu des investissements qui ont été faits sur l'évolution dans la fonction hospitalière. Mais sous le mandat de Macron, on a vu les choses s'arrêter. Je ne reviens pas sur la baisse de lits parce que je suis d'accord avec M. Bormans. Il y a quand même l'effet de l'ambulatoire qui se croise.
Et qui est positif,
avec...
je veux dire.
Voilà, donc ça, c'est un argument qui ne tient pas forcément. Je note qu'il y a eu plus 15% en réa en 2020. Donc il y a un effet Covid. Donc le sujet est éminemment complexe. Mais la problématique, c'est qu'on a encore 34% des effectifs qui sont administratifs, hein, beaucoup plus que dans les autres pays européens. On a 20% d'actes à l'hôpital qui sont qualifiés par le personnel soignant d'inutiles. Et le problème de l'hôpital public, c'est aussi globalement le problème de la santé. Vous l'avez évoqué, la désertification. Donc aujourd'hui, on a des orientations vers les urgences qui vont dégrader la situation, mettre sous tension, sous asphyxie l'hôpital. Donc tant qu'on n'a pas traité l'ensemble de la problématique de la santé, notamment en milieu rural, et comme le disait M. Cristofoli, alors qu'on s'apprête à fermer le Bailleul, Saint-Calais...
régulièrement fermés en plus. Hein.
Château-du-Loir, on est très concerné aussi à Jupille. Donc voilà, il faut rebattre complètement les cartes de manière à ce qu'on regarde l'hôpital au travers du prisme global de la santé.
Monsieur Bordon, c'est une réaction.
Il y a les maisons de santé qui commencent à s'installer sur le territoire, qui apportent quelque chose. C'est clair que la vocation des médecins, si vous avez des solutions miracles. Moi, j'étais au conseil municipal quand on a ouvert la maison de santé au Mans. Je peux vous dire que pour recruter les médecins, c'est une vraie galère. Donc, à un moment donné, il faut aussi voir la vérité. Si les urgences ferment à Château-du-Loir, bah, trouver un médecin. C'est aussi la pénurie de médecins qui est générale. Qui n'est pas nouvelle, qui est générale. Donc, le gouvernement a essayé de s'y atteler. Il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas contraindre les gens à aller exercer là où ils n'ont pas envie d'exercer.
On fait le constat qu'on n'a pas les ressources humaines pour assurer, en période de Covid, encore renforcées d'autant plus. Mais c'est vrai que si vous vous rappelez, dans les médias, depuis 2014, on voit hôpital sursaturé pour la grippe. Enfin, c'est un phénomène qui a fait exploser le Covid. Mais M. Cristofoli,
simplement, on n'a pas le vivier et on ne peut pas obliger les gens à s'installer. Deux choses qui sont, à mon avis, erronées. D'abord, effectivement, on peut obliger effectivement, les médecins, dans un système public, vu qu'on leur paye leurs études, à leur demander d'exercer au moins un temps donné sur les territoires où on a besoin d'eux. Je rappelle que ça, c'est tout à fait possible.
C'est casser la réforme, la médecine libérale, pour le coup.
C'est faire que les médecins fassent œuvre de service public, ce qu'ils font, je veux dire. Mais là où on a besoin d'eux, il n'y a pas besoin d'avoir des médecins seulement au bord de la mer et dans la région parisienne. Deuxième point, sur l'attractivité, et là, ça rejoint curieusement, encore une fois, l'éducation nationale. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des gens? Conditions de travail dégradées, salaire problématique. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Enfin, je veux dire, en informatique, aujourd'hui, on n'a pas de problème à trouver des gens qui veulent venir travailler dans ce domaine-là. Pourquoi ? Conditions de travail, très bonnes. salaire élevé. Donc si on veut résoudre le problème, messieurs,
eh bien, on ça fera peut-être l'objet de notre seconde partie où on fera des propositions, justement. Monsieur Christofoli, vous aurez peut-être l'occasion de les évoquer. Monsieur Gruon, un mot très court pour terminer notre première partie sur les constats. Une minute.
Non, mais c'est exactement ce que disait monsieur Christofoli. La problématique, c'est la rémunération. Quand on voit que l'ARS est en train de fixer les salaires dans les hôpitaux avec une vision, là aussi, très centralisée, sans donner de liberté à la direction d'un hôpital, etc., de manière à faire ses choix de ressources humaines. Et on bloque, parce que l'attractivité existe. Hein, on a beaucoup de médecins qui sont en région parisienne ou dans les grandes métropoles qui veulent aussi venir au vert. On a plein d'arguments pour faire venir, mais il faut libérer la capacité d'organiser localement, décentraliser, pour que ça fonctionne.
Merci, M. Gruau, pour ce constat. Nous allons nous quitter pour une petite pause musicale. Un mot d'actualité, je vous laisse apprécier. Écartez les enfants peut-être de l'antenne, il y a quelques mots qui sont un peu vulgaires, comme notre président parfois.
Comment merde.
À tout à l'heure.
Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. J'ai connu mes frelots avant de rentrer dans ce bisgo, alors pas besoin de poteaux. Je t'emmerde. Et pour commencer, gratiner ceux qui ne soi-disant font danser. C'est ta cloche, ou bien X en nous pourrait pas becter. Te glisserai leur manque dans ta fente pour faire des mixtapes Made in France. Et quand tu vas guincher, remets tes guibolles rincées. Eh, y'a plus rien de français. Alors monsieur Lydia, la one again, change de scud. Et puis toi, tu connais l'underground, car t'es plutôt fashion. Alors action, je t'emmerde. Débarqué avec Frollo, mais pas en mono, mais en bikini avec Solo. Et ton pater, un tas de trucs, ce qui t'évite les répétis avec les schmitts. Des squats, un macloder, et rien d'un assassin. En France dorée, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Chouffe-toi dans une glace, car ce que tu vois, c'est dégueulasse. Eh, Renoir, oups, t'as rasé tes tifs. Babylone, je t'emmerde. Quant au narvalo de la nation, leader sur haut-parleur, sachez que le hip-hop, c'est pas seulement faire des gribouillis sur un muret, et se faire calter par les cacous de l'apéro comme un furet. FMP, fanfaron managé par une pute, encore un coup foireux comme le BOSS, boulot organisé qui suce ses sniffs. Authentique sur Paplard, alors que ces deux-là voulaient se rentrer dans l'art. Eh, tout n'est pas si facile. Et qu'est-ce que t'attends pour le foutre-feu et te foutre-feu? Critique la soupe, et faut les croutons qui vont avec. Eh, et même s'il y en a qu'un qui sort des briques, et l'autre tôt, c'est glandé 30 piges pour vendre du shit, c'est arrivé près de chez toi. Ouais, ma gueule, carrément sous ton nez. L'argent pourrit les gens, c'est plus un sentiment. Bien sûr, je vous emmerde. Je t'emmerde. Joue les quêtes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, joue les braves, joue celui qui sait. Hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Joue les quêtes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, joue les braves, joue celui qui sait. Hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Oh, si, good boy. Faut qu'ils prennent une barre pour qu'ils comprennent. Grande saucisse, parle si bien de ses sosies dans ses chansons. X-Gay, X-Surf, et pourtant il prend du côté pile. Y'en a qui ont l'emballage et pas le contenu. Est-ce qu'il gigote dans ton calcif aussi chétif que chez Garbit? Je t'emmerde. Honneur au dingue, l'amigale. Non, la tronchonneuse. Avant de donner des leçons, regarde avec qui t'as fait acheton. Mais si, et si seulement t'avais pas baissé ton froc pour en arriver là. Eh ouais, c'est vrai, ce jour-là t'en avais pas. Et si, avec des cils, malheureusement je coupe du bois. Je t'emmerde. 12 et pas un cerveau, fallait qu'on revienne. Quitte à collaborer avec l'autre facho, j'en place une spéciale pour toi, Père Paul Jaco.
C'est pas santé, mais c'est bien ratonné.
Car tatoué tu l'es encore, et v'là l'envers du décor. Elle compte du racisme, c'est tringlé ce qui reboot. J't'emmerde, j't'encule et j't'emmerde.
Rappelle-toi le mélancolique
qui fait dans la purée mousseline. Car pour un moslem, t'aurais dû déjà changer de blague. Ça sent le gaz, en la akbar. Et la première qualité d'un moslem, c'est d'être homme. Tu l'es pas, et sache que la religion n'est pas un sprint, mais une course de fond. Alors pense à ceux qui pratiquent depuis 20 ou 40 ans et qui n'en foutent pas tout en boucan. Remarque, ils l'ont marqué, tu ne seras pas une icône. Et si seul l'aide suprême juge, alors la sky roulette, sacrilège. Bismillah, je t'emmerde.
Joue les quêtes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, joue les braves, joue celui qui sait. Hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Joue les quêtes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, joue les braves, joue celui qui sait. Hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Booba, Booba, mon petit ourson.
Il nique sa mère, la réinsertion. Même pas Renoir, même pas Abza. Juste un zone d'œuf mal séca. T'es raminé, tu te fais un coup Bob Gun. Pareil, c'est pas Top Gun. N'est pas le Zaref, moi aussi j'écoute pas Naref. Dans mes shots, je pêche sur ton flot. Et je baisse sur Gilbert Beco. Putain, quel de bâtard. Mais c'est qui jappe comme ça? Eh, plutôt timide pour un pit. Un épagnol sorti tout droit de la SPA. On t'aurait blasé Mick McCarty, ça t'aurait pas titi. Il sort pas quoi à gauche, il sort pas quoi à droite. Ça y est, là le super crew, Papa Moglian, on y comprend gal. Quant aux gros cos qui m'ont pompé, je t'emmerde. Sachez qu'on se souvient du premier, pas du deuxième. Je t'emmerde. La syphilis dans le rap, ça fait bizarre. Et pour bronzer, je crois que t'as besoin d'une passoire. Et vu que je m'arrête pas là, répète après moi.
Ambiance scandale, danse des pédales, sentez bien la chaleur.
Dans ton cul. Marseille, ça pue, c'est sale, pas vrai? Et ton art de rue est bien propre. Le Dino Soleil et 306K, à Paname sont obsolètes. Sweet life, c'est ça ma couille. Balance ta Cendrillon du ghetto sur le trottoir.
La fonte family, c'est fini.
Et pour les pseudo-indépendants, tu signes en maison de scud. S-H-E-R-Y-O, rap d'immigré à bandeau. Tu défies peut-être Tixor, ce qui fera pas de trop un cador. King de la récup et sans répute. Ta révolution, c'est Virgin, le pognon. Je sais même pas si c'est un râteau ou un cajou. Eh, hey, tu te prends pour le nombril du monde, alors t'en es que de trou du cul. Continue l'impro. Tellement de trous de balles qui parlent de rue. À croire que c'est tous des SDF, mais y'en a pas BZF. En bref, même si Jean Gabin n'est pas une putain, retiens-le bien. Je te l'avais dit, ma gueule. Ta-ta-tan.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
De retour à l'antenne après ce morceau de musique de MC Jean Gabin. Deuxième partie de l'émission, nous allons aborder la question et des propositions. Notre troisième sujet sera relatif à la question suivante. L'État doit-il être efficace et rentable? Monsieur Gruau.
Efficace, très certainement, et c'est tout l'enjeu. Rentable, moi qui suis chef d'entreprise, c'est pas l'objectif de la fonction publique et de l'État d'être rentable.
Et des services publics, au-delà
de ça. Et des services publics. Donc, il faut évidemment avoir un sens de l'économie. Hein, on parle de l'argent des Français. Donc il faut gérer au mieux, réduire la dette, réduire les dépenses, et donc, par ça, être efficace. Donc l'efficacité, oui. Rentabilité, ça ne veut rien dire pour la fonction publique.
Monsieur Bormans.
La rentabilité, si je prends la définition, c'est qui donne du profit, du bénéfice. Donc ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'objet, on est d'accord. Les collectivités, je rappelle, n'ont pas le droit au déficit. Donc ils doivent avoir un budget équilibré. Donc non, par contre, l'efficacité doit être une priorité absolue, puisque c'est un service public. Et donc l'efficacité doit être maximum voilà, en fonction des... Et je me rappelle qu'à la mairie du Mans, on a fait en sorte de maintenir la même qualité de service avec des moyens qui baissaient du fait de la baisse
des
dotations.
Donc pour vous, c'est possible, on en revient un peu à la question que posait M. Christophe Collier, avec des moyens constants, on peut faire aussi efficace.
On a trouvé des solutions de mutualisation, d'organisation.
Monsieur Christophe Collier, peut-être une réaction, pardon, Monsieur Bormans.
L'État doit-il être rentable et efficace? L'État doit et est efficace, c'est-à-dire qu'il remplit une mission de service public. Du moment où il remplit cette mission de service public qu'il lui a signée, il est efficace, puisque cette mission de service public est désignée par les représentants de la nation. Donc, à mon sens, l'État a cette obligation d'efficacité. Qu'il le soit plus ou moins, ça c'est une affaire politique. Enfin, je veux dire, car la question c'est qu'est-ce qu'on définit comme étant efficace? Pour l'État. Quels indicateurs prenons-nous?
Exactement.
Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'on veut un État efficace, car économe. Et c'est là qu'on a un problème. Et on le voit dans la pandémie dans laquelle nous sommes, elle est un révélateur des dysfonctionnements, parce que l'économique, en fait, l'impose aux missions. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'un hôpital ne coûte pas trop cher. Aujourd'hui, il faut qu'une école fonctionne avec des moyens insuffisants, un collège... Donc moi, j'interroge votre question en la retournant. Quelles sont les missions de l'État? Est-ce que l'État est là pour s'adresser à chaque citoyen ou seulement à certains, comme le fait le président de la République? Moi, il me semble que l'État, sa mission première, c'est de garantir non pas l'égalité des chances, qui est un mensonge, mais l'égalité des droits. Et c'est tout à fait différent. À Jupy, on doit avoir la même qualité d'enseignement. Comment? Et ça passe par un État centralisé qui garantit une formation de qualité à tous les enseignants, pour tous les élèves. Même chose pour le soin. Partout en Sarthe, on doit être soigné de la même façon, avec la même qualité de soin. Ça a forcément un coût, parce que avoir des soignants disséminés sur le territoire, ça peut coûter plus cher que de les avoir centrés au Mans. Mais c'est une question de choix.
Monsieur Bormans, je tiens juste à préciser que j'ai hésité à poser la question du périmètre de l'État. Effectivement, Monsieur Bormont, bah, votre réaction, et après Monsieur Bruyot.
Le périmètre de l'État, c'est l'État régalien, la sécurité, l'enseignement, les soins, c'est les missions régaliennes qui doivent être la priorité en termes d'efficacité. Après, sur le territorial, bien sûr qu'on doit avoir une égalité territoriale, mais la décentralisation peut aussi être intéressante. Dans certains cas, parce que on souffre depuis des décennies d'une centralisation parfois excessive. Et je pense que ça sera un enjeu du futur, on en parlera dans le point d'après, c'est peut-être plus décentralisé pour plus rendre les choses plus agiles, plus efficaces sur le terrain. Et ne pas avoir cette lourdeur qui fait parfois que ça ralentit et ça rend moins efficace.
Monsieur Gruyot.
Alors, je vais prendre un mot à la mode, l'efficience. La différence par rapport à l'efficacité, c'est le plus d'efficacité possible avec le moins d'efforts possible. Donc le moins d'efforts, c'est le moins de ressources, c'est le moins de dépenses, mais sans renier sur la qualité du service public. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, l'IFRH estime que la suradministration...
L'IFRH, M. Gruyot.
C'est l'Institut français des recherches, je ne sais pas
c'est
quoi.
C'est dans l'Institut, en fait.
Voilà, c'est ouais. Un institut, comme l'Institut Montaigne, enfin, tous ces trucs-là, là, qui font des études. Ils estiment que la suradministration française pèse 84 milliards d'euros par an. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 84 milliards dans l'éducation, dans la santé, dans la police et la justice? C'est des moyens qui sont considérables. Donc il y a forcément une suradministration, des normes, plein de choses qui emmerdent les Français, qu'il faut supprimer. La décentralisation, la proximité avec les populations, avec les décisions, avec la localisation des problématiques, c'est un vrai sujet. Alors c'est ce qui est porté par le programme LR, et ça va contre le centralisme de Macron.
Monsieur Cristofoli, une réaction peut-être ?
Oui, alors moi je suis toujours assez dubitatif de ces idées qui viseraient à démanteler l'État parce que l'administration coûte cher. L'administration, c'est de l'organisation, c'est de la coordination, c'est de la répartition de la charge de travail. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça nécessite des moyens. Alors après, qu'il soit plus ou moins efficient, c'est là encore une affaire de regard. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on fait ce qu'on appelle des délégations de services publics ou que même on demande au privé de venir se suppléer
des partenariats publics
privés, par exemple, mais ou même des entreprises qui aujourd'hui font œuvre de service public parce que l'État s'est retiré. Les économistes globalement sont d'accord sur une chose, c'est que les coûts induits par le privé sont plus élevés que l'administration. Donc j'alerte, peut-être qu'il y a un coût important à l'administration française, mais quand on privatise, ça coûte plus cher parce que dans une entreprise comme les MMA, il y a une administration. Dans des entreprises privées importantes, il y a toujours une administration. Il y a une organisation des services. Et ça coûte, qu'on le veuille ou non. Donc moi j'attire l'attention sur les coûts induits quand c'est le privé qui s'en occupe. C'est plus cher, Donc attention à ce point-là. Moi, il me semble qu'un des enjeux, c'est aussi de faire que les acteurs, tous, c'est-à-dire du terrain, mais aussi des administrations, puissent être concertés. De plus en plus, aujourd'hui, on a des gens qui sont dans des cabinets d'expertise qui viennent nous dire comment on doit faire nos métiers, sans jamais les avoir faits. Moi, je rappelle que le protocole sanitaire de l'éducation nationale, il est fait par un cabinet dont les gens n'ont jamais mis les pieds dans une école. Et ça se voit, parce que du coup, ça ne marche pas. Donc j'attire l'attention, il faut redonner au personnel la place qu'ils ont, c'est-à-dire ils sont experts de leur métier et ils sont d'excellents regards sur ce qui peut être amélioré. Et curieusement, ce n'est pas ce qu'on fait.
Monsieur Bormans ?
Je pense que c'est une piste pour le futur de décentraliser, donner un peu plus de pouvoir au terrain, d'un peu plus de la parole au terrain, parce que la suradministration, moi je suis désolé, chez MMA il y a une administration, mais elle est sûrement moins gargantuesque qu'elle peut l'être parfois.
Il faudrait regarder les pourcentages d'effectifs. Donc,
c'est pas une information, c'est une croyance.
Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, alléger la suradministration, dans toutes les collectivités, il y a parfois, on l'a vu, nous, on a dû se réorganiser à la ville du Mans pour être plus efficient. Et puis ça a fonctionné. Donc à moyen en baisse, ça a fonctionné. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter de vouloir tout dire, on touche à rien. Il faut juste plus de moyens et tout va s'arranger par miracle. Non, le problème est plus large.
Monsieur Rio.
Mais il y a 1 million de plus d'effectifs publics depuis 1997, dont la moitié dans la fonction publique territoriale. Il faut voir aussi toutes les strates administratives là, qui existent, tous les recrutements. Là. Vous avez dit, je suis conseiller communautaire dans les com-com.
Le nombre de vice-présidents, c'est bien connu.
Non, mais ça, c'est les élus. Mais je parle aussi des agents.
Oui, on parle d'administration qui est inutile parfois. Il y a des transferts chez les élus à faire du travail.
Il y a des transferts de compétences. Donc, un transfert de compétences génère des besoins d'agents, mais sans les supprimer sur celui qui perd la compétence. Et du coup, on a une croissance des effectifs et d'administration. Alors, comme disait M. Christofoli, et je suis d'accord avec lui, il nous faut une administration. Mais ne confondons pas administration et bureaucratie.
M. Christofoli, pardon.
Pour le coup, je suis d'accord.
Moi, je voudrais simplement donner un exemple très concret de ce qui se passe, par exemple, à l'université ou dans les écoles primaires et maternelles du Mans.
Dont Mme Pécresse, les conséquences de l'université sur la loi des autonomies.
Vous on a voir, pu voir une consécration, justement. Ça a l'air très pragmatique.
Ça marchait bien, hein.
Et puis on voit comment ça fonctionne quand on a pu l'État qui est présent. Aujourd'hui, de façon ordinaire, ce sont des agents territoriaux qui font le ménage dans les classes. À Jupy, je pense que c'est probablement pareil. Et puis à l'université aussi. Avec la crise du Covid, on a eu des personnels qui ont dû être retirés pour plein de raisons. Il manquait du personnel. La ville du Mans, l'université, peuvent être confrontés au fait d'avoir recours à des sociétés privées, comme O2. Eh bien, force est de constater que le ménage n'est pas fait de la même façon, que la qualité est moindre, et que surtout, en fait, le lien entre les personnels des écoles, c'est-à-dire les enseignants et les personnels de ménage, est beaucoup plus compliqué. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, si on regarde sur la ligne facture, O2 arrive à avoir un service peu coûteux sur la facture donnée, comme ça. Et on va nous dire, oh là là, il y a plein de personnels d'entretien, ça coûte très cher, etc. Mais en fait, le service donné, lui, il n'est pas du tout le même. Et la qualité d'accueil des élèves... Non, j'insiste sur
ce point-là, parce qu'accueillir
des étudiants et des élèves dans des salles propres de façon correcte toute l'année, c'est un vrai travail qui doit être reconnu. Ça paraît très, très simple comme ça.
Il nous reste une minute sur ce
sujet. Mais on a besoin d'un système où on reconnaît le travail des personnels. Et une administration est là pour organiser au mieux le service des agents de ménage sur toutes les écoles. Mais ça nécessite que l'État se dise « on a besoin d'un service de qualité ».
Monsieur Bormans, sur la notion d'efficacité, de rentabilité et du dernier propos de Monsieur Christofoli.
Non, je ne vais pas le rejoindre forcément, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être pragmatique et qu'à un moment donné, il y a des missions qui peuvent être déléguées. Ça existe depuis très longtemps et voilà. Et on ne peut pas faire d'un exemple une généralité. C'est pas parce que le personnel d'O2 n'a pas fonctionné à tel endroit que c'est une généralité. Donc non, je partage pas du tout ce point de vue-là.
Merci pour cette conclusion, Monsieur Bormans. Nous allons aborder le dernier sujet de notre émission. Et là, messieurs, faites-vous plaisir. Quelle proposition en 2022 pour les services publics ? Monsieur Gruot, pour commencer, vous parlez d'administration administrante. Je pense que vous avez une proposition de réforme qui a déjà fait un peu le tour des médias. Enfin,
Dans le programme de Valérie Pécresse, on a effectivement une mesure forte sur laquelle on a largement communiqué, qui est de réduire les effectifs de 150 000 postes.
C'est plus de 100 000.
En fait, c'est 200 000 de postes en moins et 50 000 en plus. C'est 50 000 en plus pour protéger, éduquer, soigner. Donc, c'est notamment 25 000 dans l'hôpital et 25 000 dans l'éducation, la police et la justice. Donc, un net de moins 150 000. Moins 150 000, c'est 2,6% hein, l'horizon du quinquennat. Et c'est 4 milliards d'économies annuelles.
D'accord. Monsieur Bormans, vous auriez... Alors je sais que Monsieur Macron n'est pas encore officiellement candidat, même si on a cru comprendre sur l'interview parisien donc, que ça allait être le cas. Est-ce que vous, à Territoire de Progrès, par exemple,
oui,
vous avez peut-être...
Oui, Territoire de Progrès. Alors, moi, j'ai toujours défendu la décentralisation, mais il y a un domaine où, chez Territoire de Progrès, on s'est mobilisé et on trouve que l'échec... Il y a un échec là-dessus, sur ce sujet-là, c'est l'enfance en danger, puisque les constats sont assez... décevant, ça ne fonctionne pas.
C'est notamment une espèce... sur les ASE et tout ça, vous mettez
oui,
un
voilà,
paquet sur ça.
Il y a 170 000 enfants placés en France, il y en a 360 000 sous protection, et là c'est la loterie départementale, suivant si vous êtes dans un département qui s'y investit plus que d'autres, eh bien c'est pas du tout le même résultat, et c'est des enfants qui trinquent. Les constats derrière, c'est beaucoup d'enfants qui deviennent adultes, qui se retrouvent à la rue. Enfin, il y a un taux d'échec assez important. Donc, parmi les propositions TDP,
on a recentralisé
la politique de l'enfance en danger. Ça fait partie, peut-être, ça peut paraître...
Attention, il va y avoir une administration.
Voilà. Parce que, oui, mais à l'arrivée, les enfants, c'est quelque chose d'important dans un pays, et qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'on peut pas négliger.
Merci Monsieur Bormans, Monsieur Christophe Ollier, des propositions, bah, notamment dans l'éducation.
Oui, mais dans la santé aussi. Mais ça se rejoint, c'est-à-dire faire de la santé et de l'éducation des communs. C'est-à-dire que.
Expliquer ce qu'est un commun.
Bah, un commun, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, mais qui n'appartient ni à l'État, ni au domaine du privé. C'est-à-dire que ce sont les citoyennes et les citoyens qui sont tous propriétaires, copropriétaires et co-responsables, et je dirais même co-défenseurs.
De l'autogestion, en fait.
Alors, pas que de l'autogestion, mais c'est l'idée que tout le monde est impliqué dans le commun. Donc, la santé est un exemple de ce qu'on peut faire. On le voit bien avec le Covid. Le fait qu'on porte tous notre masque, on fait commun sur le fait de faire attention aux autres. C'est un exemple. Et donc, des politiques de santé publique qui s'appuient sur le fait qu'on implique les citoyens concrètement dans ce domaine, c'est quelque chose d'important. Et donc, passer en fait, d'un système de santé centré sur la maladie et le soin en tant que tel sur un système centré sur la personne. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est, à notre sens, c'est renverser la capacité du soin et de la santé publique à être sur la personne et pas sur l'efficacité ou l'efficience. C'est de quoi les gens ont besoin pour être en bonne santé.
On part des besoins.
L'éducation, c'est assurer l'égalité des droits. Et ça veut dire renverser complètement la table sur ce qu'est l'accès à l'éducation, et donc mettre les moyens plus, et là on en est très très loin, pour assurer des formations dans tous les domaines, pour tous les élèves. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand on est fils de médecin, on a plus de chances que quand on est fils d'ouvrier d'arriver à l'ENA. Et ça, c'est documenté.
Oui,
ça
n'est Dieu, pas normal. Bon Dieu, passeront, la théorie, voilà. Oui, bien sûr.
Et alors, on a beau supprimer l'ENA, on ne supprime pas les inégalités sociales.
Alors ça, justement, est-ce que vous, Monsieur Bormans, vous êtes d'accord avec cette suppression de l'ENA? Et Monsieur Gruau, est-ce que vous, à LR, vous l'auriez faite aussi?
Plutôt d'accord, la suppression de l'ENA, après il ne faut pas reproduire quelque chose d'identique, mais plutôt d'accord parce que c'est quelque chose qui avait plutôt plus d'inconvénients que d'avantages. Sur les perspectives, donc il y a eu dans ces fameuses interviews du président, il parle aussi de des perspectives en termes d'enseignement, il veut donner plus de liberté au terrain, repenser le métier, repenser peut-être les pédagogies, plus de liberté pédagogique, je pense que c'est intéressant.
La liberté pédagogique, elle est déjà acquise pour les professeurs.
Elle n'est pas suffisamment.
Elle n'a jamais été autant réduite que ces 5 dernières années.
Il y a des vrais... Je parlais aussi des maisons France Service, je parlais de la transformation numérique aussi. Ça, c'est un vrai enjeu. En Vendée, j'ai intervenu sur une formation à la CAF, et les agents de la CAF me disaient combien c'était intéressant d'avoir, via les maisons France Service, le lien avec des populations dans les zones rurales. Donc merci. Ça fonctionne, il faut aussi dire aussi quand les choses fonctionnent.
Donc on peut améliorer des dispositifs déjà existants. J'imagine qu'il y aura des propositions aussi dans le cadre du programme de M. Macron ou du candidat de la majorité gouvernementale. M. Gruau, des idées de réforme.
Je suis ravi de voir, d'après ce que dit M. Bormans, que M. Macron a l'intention de changer de cap, c'est-à-dire de décentraliser alors qu'il a tout centralisé, de donner des libertés locales alors qu'il a fait du jacobinisme.
Alors M. Bormans parle au nom de territoire de progrès, pas de M. Macron.
Certes. Donc moi je pense que l'autre mesure phare, c'est la simplification et la décentralisation. C'est la République des territoires qui était notamment portée par Xavier Bertrand et que Valérie Pécresse lui a confié dans la campagne, réduire ce millefeuille. On a l'État, les régions, le département, des pôles qui s'intercalent aussi avec les com-com, les communes. On a plein de strates, plein d'administrations, plein de complexités. Si je fais un exemple sur l'éducation, les lycées dépendent des régions, les collèges dépendent des départements. Si vous avez un pôle d'éducation qui concerne à la fois un collège et un lycée, que vous avez des travaux, des investissements à faire, il faut tirer les sonnettes aux deux portes. C'est d'une complexité.
Moi, j'aimerais juste une réponse très claire avant de passer la parole à M. Christophe Ollier. Vous parliez de réaffecter 50 000 fonctionnaires. Vous les mettez où ? Dans le régalien ? Dans l'éducation ? Dans la santé ? Vous avez évoqué quelques chiffres tout à l'heure, si vous pouvez, 26 000, je crois.
Sur 50 000 créations de postes, c'est 25 000, donc la moitié à l'hôpital, et l'autre moitié sur l'éducation, la police et la justice.
Par an, on est sur le quinquennat.
Non, on est sur
donc 50 000 sur le quinquennat.
Sur l'évolution d'effectifs.
D'accord. Monsieur Christophe Ollier, une réponse, est-ce qu'il faut plus, vous mettriez plus
de moyens? Je voulais revenir sur la numérisation.
Je
trouve ça intéressant. Enfin, moi, je voudrais alerter parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui éloigne les citoyennes et les citoyens de leur accès aux droits. On a aujourd'hui une administration qui, de plus en plus, et dans les différents services, s'appuie de plus en plus sur le numérique et sur une soi-disant dématérialisation. Moi, je voudrais d'abord rappeler que d'un point de vue écologique, la dématérialisation n'existe pas. Les conséquences écologiques et sociales du numérique sont catastrophiques. Je vous invite à lire le dernier ouvrage de Guillaume Pitron, mais je vous assure que là, vous rigolez sans savoir. Vous vous trompez. Par ailleurs, je voudrais dire que pour les personnes âgées, pour les personnes éloignées du rapport à l'écrit, pour les personnes migrantes, la numérisation, la digitalisation, en fait, est une violence. Des gens sont massivement privés de leurs droits. Beaucoup de personnes âgées, aujourd'hui, ne peuvent plus accéder aux services publics parce qu'ils sont obligés de passer par des services... c'est faux.
C'est une réalité perceptible.
On a aussi un chômeur qui vient d'être radié parce qu'il a envoyé des courriers papier et qu'on lui a demandé...
C'est un cas exemplaire et symbolique.
Oui, mais moi, je trouve que ça dit quelque chose quand même de cette obsession d'une soi-disant dématérialisation qui a des conséquences sur le terrain, qui sont bien réelles. La dématérialisation, en fait, c'est du matériel informatique qu'on ne voit pas, mais qui existe.
Donc, il faut remettre du service public dans les zones et le réorganiser.
Il faut remettre des humains pour accueillir des humains. Si la crise montre quelque chose, c'est qu'on a besoin de se retrouver. Et pour ça, il faut mettre du personnel.
Une minute, une proposition de réforme, et on se quittera. Monsieur Gruot, au niveau des chiffres, mais peut-être une autre proposition de réforme sur les services publics.
Non, mais c'est vrai que moi, la numérisation, je suis pas complètement d'accord avec Monsieur Cristofoli. On peut débattre de l'enjeu écologique, mais aujourd'hui, c'est quand même aussi un gage de simplification. Ça aide néanmoins. Il faut accompagner. Il y a aussi des conseillers numériques qui sont déployés par le département en ce moment sur le territoire. Il y a effectivement les Maisons France Services qui étaient une initiative de Sarkozy à l'époque, je vous le rappelle. Donc il faut et le numérique et la proximité.
Monsieur Vormans.
Tout à fait, il faut arrêter de tirer sur le numérique, stop au progrès, c'était quelque chose de mondial, donc à un moment donné, on prend le progrès. Et donc les Maisons France Service permettent d'accompagner les personnes qui ont des difficultés, et ça fonctionne, moi le témoignage que j'avais, ça fonctionne sur le terrain. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des réactions dogmatiques, et il faut faire avancer les choses.
Monsieur Cristofoli, une dernière réponse.
Évidemment, une autre fiscalité en fait, une redistribution ambitieuse qui va chercher l'argent là où il est. Je rappelle que les milliardaires et notamment les Français, ont fait des gains monstrueux et qui ne sont pas taxés. Et là, on n'a pas 80 milliards, si on prend la fraude fiscale, on a plusieurs centaines de milliards pour les services publics.
Messieurs, merci pour ce débat. On aura bien compris que des points de vue n'étaient pas communs. Je invite d'ailleurs nos auditrices et nos auditeurs, suite aux propos de M. Cristofoli, à réécouter notre émission sur le sujet de la fiscalité et du bilan quinquennal de M. Macron. Je remercie mes invités, je remercie Adèle pour sa fidélité à l'émission. La semaine prochaine, nous nous retrouvons à la même heure pour un autre sujet. Et nous nous quittons avec un morceau de Jay-Z, Death President 2. Who wanna bet us that we don't touch, let us stack.